75. Ils descendirent comme les premiers rayons du soleil matinal brillaient à travers une trouée de nuages pour révéler une partie de l'île d'un vert délicat, avec l'intérieur souligné par une rangée de 12 collines basses qui s'étendaient dans le lointain mauve. À mesure qu'ils approchaient, ils purent distinguer des bouquets d'arbres isolés et parfois des vergers, mais la majeure partie du territoire était composée de fermes bien tenues. Juste en dessous d'eux, sur le côté sud-est de l'île, s'étirait une plage argentée adossée à une ligne brisée de rochers derrière laquelle s'étendait une étendue d'herbe. Ils apercevaient de temps à autre une maison, mais jamais celle-ci ne se groupait pour former une quelconque agglomération. Enfin, ils discernèrent un vague réseau routier, des voies bordées de rares habitations, puis, dans la fraîcheur de l'air matinal, ils surprirent un véhicule aérien dans le lointain. Ils pouvaient simplement dire que c'était une machine et non un oiseau par sa façon de manœuvrer. C'était le premier signe indubitable de vie intelligente en action qu'ils découvraient sur la planète. Ce pourrait être un véhicule automatique. Encore faudrait-il y parvenir sans électronique, observa Trévise.
Ça se pourrait bien, confirma Joie. Il me semble que s'il y avait un homme aux commandes, il se dirigerait vers nous.
Nous devons offrir un sacré spectacle, un véhicule qui plonge vers le sol sans recourir à des réacteurs ou à des rétrofusées. Un spectacle étrange sur n'importe quelle planète, ajouta Trévise songeur. Il ne doit pas y en avoir beaucoup qui aient jamais eu l'occasion d'assister à la descente d'un astronef gravitique. La plage pourrait faire un site d'atterrissage idéal. Mais si le vent souffle, je n'ai pas envie de voir l'appareil recouvert par les eaux. Je vais plutôt me diriger vers la prairie de l'autre côté des rochers.
Au moins, nota Pellerat, avec un vaisseau gravitique, on ne carbonise pas la propriété d'autrui en descendant.
Ils se posèrent délicatement sur les quatre larges amortisseurs qui s'étaient lentement déployés durant l'ultime phase de la manœuvre. Ceux-ci s'enfoncèrent dans le sol sous le poids de l'engin.
« J'ai peur toutefois que nous ne laissions des marques, » ajouta Pellerat. « Au moins, »
continua Joie. Mais quelque chose dans sa voix n'était pas entièrement approbateur.
« Le climat est-il sans aucun doute tempéré ? Je dirais même chaud. »
Il y avait quelqu'un dans l'herbe qui avait regardé le vaisseau descendre sans trahir le moindre signe de peur ou de surprise. Ses traits ne révélaient qu'un intérêt fasciné. Elle était fort peu vêtue, ce qui corroborait l'estimation de Joie quant au climat. Ses sandales semblaient faites de cordes, et elle portait roulée autour des hanches une jupe drapée à motifs fleuris. Elle avait les jambes nues et ne portait rien au-dessus de la taille. Elle avait des cheveux bruns, longs et très brillants qui lui descendaient jusqu'à la taille. Sa peau était brun pâle et ses yeux très bridés. Trévise scruta du regard les environs. Personne d'autre en vue. Il haussa les épaules et dit « Enfin, nous sommes tôt le matin, et la plupart des autochtones doivent être chez eux, ou même encore endormis. Malgré tout, on ne peut pas dire que la région soit très peuplée. » Puis, se tournant vers les autres, « Je vais sortir et parler à la femme, si elle parle une langue compréhensible. Vous autres,
je trouve, »
intervint avec fermeté Joie,
qu'on ferait aussi bien de sortir tous. Cette femme est totalement inoffensive, et de toute manière, j'aimerais bien me dégourdir les jambes et respirer l'air d'une planète, et, qui sait, trouver des vivres sur place. Je voudrais aussi que Phalum retrouve le contact avec un monde, et j'ai comme dans l'idée que Pell aimerait bien examiner la femme de plus près.
« Qui ça, moi ?»
demanda Pellerat en rosissant légèrement.
« Pas du tout, Joie. « Mais enfin, c'est moi le linguiste de notre petite troupe. »
Trévise haussa les épaules. « Plus on est de fous. Néanmoins, malgré l'air innocent de cette femme, j'ai bien l'intention de prendre mes armes.
« Je doute,
nota Joie,
que vous soyez le moins du monde tenté d'en faire usage contre cette jeune personne. »
« Elle est séduisante, n'est-ce pas ?» dit Trévise en souriant. Il débarqua le premier, suivi de Joie, traînant par la main Phalum, qui descendait avec précaution la rampe derrière elle. Pellerat était bon dernier. La jeune femme brune continuait à les observer avec intérêt. Elle n'avait pas reculé d'un pouce. « Eh bien, essayons, » dit Trévise dans sa barbe. Il éloigna les bras de ses armes et lança « Je vous salue. » La jeune femme resta pensive un instant, puis répondit « Je te salue. Et salue tes compagnons. »«
Superbe !» dit joyeusement Pellerate. « Elle parle le galactique classique et avec l'accent correct. » »«
Je la comprends moi aussi. » Le coupa Trévise en agitant la main pour indiquer que sa compréhension n'était toutefois pas parfaite. « J'espère que l'inverse est vrai. » Souriant et adoptant une expression amicale, il reprit « Nous avons traversé l'espace. Nous venons d'un autre monde. »
« C'est bien, »
dit la jeune femme de sa voix de soprano limpide. « Ton vaisseau provient-il de l'Empire ?»«
Il vient d'une étoile lointaine, d'où son nom, d'étoile lointaine. »
Et la jeune femme examina les caractères sur la coque. « C'est donc ce que cela veut dire, sans doute, si la première lettre est un E, puis... Mais attendez, il est écrit à l'envers. » Trévise s'apprêtait à protester, mais Pellerate, extasié, béat, l'approuva. «
Elle a raison. La lettre E s'est renversée il y a 2000 ans environ. Quelle occasion magnifique d'étudier le galactique classique en détail, et comme une langue vivante !»
Trévise examina soigneusement la jeune femme. Elle ne mesurait guère plus d'1,50 m, et ses seins, quoique bien galbés, étaient petits. Elle semblait toutefois formée. Les mamelons étaient larges et les aréoles sombres, bien que cela pût tenir à son teint de peau. « Je m'appelle Golan Trévise. Mon ami est Janov Pellerate. La femme s'appelle Joie et l'enfant Phalom. Est-ce donc la coutume, sur l'étoile lointaine d'où vous venez, de gratifier les hommes d'un double nom ?
Je suis Iroko, fille d'Iroko. Et votre père ?
Coupa vivement Pellerate. À quoi Iroko répondit par un haussement d'épaule négligent.
« Son nom, à ce qu'en dit ma mère, est Smo'ol. Mais c'est sans importance, je ne le connais point. »«
Et où sont les autres ?» reprit Trévise. « Vous semblez être toute seule ici pour nous accueillir. »«
Bien des hommes sont au large sur les bateaux de pêche. Bien des femmes sont dans les champs. » Ces deux derniers jours, j'étais en congé, ce qui m'a donné l'insigne chance de voir cette grande chose. Les gens toutefois sont curieux, et le vaisseau aura été aperçu lors de sa descente, même de loin. D'autres ne tarderont pas à venir.
Y a-t-il beaucoup d'autres gens sur cette île ?
Il en est plus de 25 000, dit Iroko avec une évidente fierté.
Et y a-t-il d'autres îles sur l'océan ?
D'autres îles, mon bon seigneur ?
Elle semblait intriguée. Trévise se contenta de cette réponse. L'île était sur toute la planète le seul point habité par l'homme.
Comment appelez-vous votre monde ?
C'est Alpha, mon bon seigneur. On nous enseigne que son nom entier est Alpha Centauri, si ce terme vous éclaire plus. Mais pour notre part, nous l'appelons Alpha tout court. Et voyez-vous, c'est un monde au doux visage.
Un monde quoi ?
Demanda Trévise en tournant vers Pellerate un regard ahuri.
Elle veut dire un monde superbe, expliqua ce dernier.
Enfin, du moins, ici et maintenant.
Il leva les yeux pour contempler le bleu ciel matinal où dérivaient quelques rares nuages.
Vous avez une belle journée ensoleillée, Iroko. Mais j'imagine qu'il ne doit pas trop y en avoir sur Alpha.
Iroko se raidit. Autant que nous le souhaitons, mon bon seigneur. Les nuages peuvent venir quand nous avons besoin de pluie, mais la plupart des jours, il nous semble bon que le ciel soit limpide. Sans doute un ciel clément, ainsi qu'une douce brise, sont hautement désirables en ces jours où les bateaux de pêche sont en mer.
Les vôtres maîtrisent-ils donc le temps, Iroko ?
Ne le maîtriserions-nous pas, Sieur Golan Trévise, que nous serions trempés de pluie.
Mais comment faites-vous ?
N'étant pas un ingénieur compétent, monseigneur, je ne puis te le dire.
Et Que pourrait être le nom de cette île sur laquelle vous et les vôtres vivez ? Dit Trévise, se trouvant piégé dans les tournures ornementées du galactique classique, tout en se demandant désespérément s'il ne s'en mêlait pas dans les conjugaisons. « Nous appelons notre île paradisiaque parmi les eaux du vaste océan Nouvelle Terre. » Sur quoi Trévise et Pellorate se dévisagèrent avec surprise et ravissement.